Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal grâce à Mzati.
À la une de l'actualité ce soir, des obus sont tombés hier et même ce dimanche dans quelques quartiers de la ville de Goma Nord qui vous faisant des dégâts matériels. La société civile alerte les forces de sécurité et appelle la population à la vigilance face à cette situation. Restez avec nous pour en savoir plus. Le prix des carburants grimpe en Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Un litre qui s'est vendu il y a une semaine à 4 500 francs se négocie à 5 000 francs congolais, voire plus. En cause, l'impraticabilité des routes pendant cette saison des pluies, affirment les importateurs. L'invité de la rédaction s'appelle Amos Kalegamire Bazamuka, conseiller juridique et administratif du gouverneur de la province du Sud Kivu. Il nous parle de la remise officielle vendredi à Bukavu par la MONUSCO d'un bâtiment comprenant notamment 3 cachots aux autorités judiciaires de la province. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, les habitants de la ville de Goma demeurent perplexes après la nouvelle des chutes et d'explosion des obus dans quelques quartiers de la ville. Des sources concordantes, nous apprenons que des samedis à ces dimanches, ces engins explosifs ont fait des dégâts à 4 endroits de la ville. L'un a touché une cabine électrique en face du musée au quartier Imbi. L'autre a frappé une pancarte près de la place du peuple au bord du lac Kivu. La chute d'autres obus a été signalée du côté du rond-point abattoir Kituku et au bureau du quartier Mugunga qui a subi de sérieux impacts, soutiennent les témoignages. Le président de la société civile de la commune de Karisimbi affirme que la situation est préoccupante. Il appelle à plus de vigilance. Christian Kalamo est au micro de Chris Mukand.
Au niveau du quartier Mugunga, il s'est observé un engin explosif qui a fini sa trajectoire au niveau du bureau du quartier Mugunga de la ville de Goma. À ce même moment, nous sommes alertés qu'au niveau du quartier Himbi, il y a l'autre engin explosif qui vient d'être enregistré là-bas. Je nous demande vraiment la vigilance, à une très grande vigilance. On ne comprend pas comment ces engins sont en train de finir leur course au niveau du quartier Mugunga et à Himbi. Donc, nous demandons ainsi au gouverneur de la province du Nord Kivu de mettre en place une équipe pour mener des enquêtes et savoir l'origine de ces engins explosifs que nous venons d'enregistrer dans notre commune de Karisimbi et dans la commune de Goma. J'appelle ainsi la population de la commune de Karisimbi et de Goma à une très grande vigilance. Nous sommes entourés par des guerres partout, d'où l'ennemi cherche à tout prix de voir comment pénétrer notre ville de Goma. Donc je demande à la population vraiment, à chaque fois, dénoncer tout mouvement suspect dans nos quartiers, tout mouvement suspect dans la commune, tout mouvement suspect chez les voisins. En tout cas, que chacun surveille son voisin et pour tout cas suspect, alertons tous les services de sécurité.
Il n'y a encore aucune communication sur cette situation par les autorités. Entre-temps, environ 7200 personnes déplacées à la suite des affrontements entre les Ouazalènes de Bembe et Bouyou des provinces du Sud Kivu et du Maniema sont sans abri. Certains habitants qui ont fui le village de Luiko, théâtre des affrontements du 11 décembre dans les territoires de Kabambaré, vivent dans des salles de classe et dans des églises à Penemembe et dans d'autres villages environnants. Jean Kassami décrit les conditions de vie de ces déplacés.
Les personnes déplacées n'ont aucune assistance, elles endurent les intempéries, la famine et vivent dans un environnement hygiéniquement non assaini. L'administrateur des fils Isami Kalonji Badibanga revient d'une mission d'itinérance à Luiko avec son collègue administrateur de Kabambare.
Les accrochages de ces deux groupes d'autodéfense et les affrontements qui s'en ont suivis ont poussé la population Bouyou et Bembe, majoritaire dans la zone, de vider leur village à la recherche d'un abri. Environ 7200 personnes ont fui. Toutes ces personnes sont hébergées dans des écoles dans le village de Penemende, de Lumbwe, de Kabeya et Namukala. Près de 850 se trouvent dans des conditions précaires, manquent cruellement d'assistance humanitaire. Cette crise humanitaire s'ajoute à un nombre élevé de déplacés internes, estimé à 5200 personnes.
Les affrontements qui ont poussé les populations d'une partie des territoires de Fizi et Kabambare à se déplacer avaient entraîné 4 morts, dont 2 hommes et une femme, civils et Ouazalendo confondus. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, 6 miliciens de la CODECO tués au cours d'une opération de protection des civils dans les territoires de Djougou. Selon le porte-parole des FARDC qui livre ces chiffres, ce dimanche, ces assaillants ont tenté en vain d'attaquer la population déplacée du site de Lala dans la nuit du vendredi dernier. Grâce à l'intervention de l'armée, des centaines de civils ont eu la vie, sauf, précise le lieutenant Jules Ngongo. Il ajoute que les forces de sécurité sont déterminées, ensemble avec les casquets bleus de la MONUSCO, à sécuriser les populations vulnérables se trouvant dans les sites contre les exactions de la CODECO et des Zaïre, deux groupes armés rivaux dans cette région. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de Martial Kizabiamungu.
Ils ont tout fait. Ils ont même débordé. Ils ont appelé des nombreux de leurs combattants. Leur objectif était de massacrer nos populations dans le site de Lala. Encore une fois, ces tentatives, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, de prétendre ou de vouloir aller s'attaquer à la paisible population, ceux-là qui sont vulnérables. Ces CODECO, ces miliciens ont tout fait pour attaquer et rendre en poussière ces sites de Lala. Heureusement pour cette population, malheureusement pour eux, ils se sont heurtés au rouleau compresseur de forces armées de la République démocratique du Congo. 6 de leurs membres ont été neutralisés et plusieurs blessés. Et le site a eu la vie sauve grâce à l'intervention prompte et efficace de forces armées de la République démocratique du Congo.
Dans un autre chapitre, au Kassai oriental, hausse des prix des carburants en Mbujimayi depuis la semaine dernière. Le litre de carburant coûte 5000 francs en congolais et pourtant le même litre s'est vendu il y a une semaine à 4500 francs congolais. Des explications avec Esther Dalafina.
Le litre de carburant coûte actuellement 5500 francs congolais à la pompe. Chez les Kadhafi, le même litre se négocie entre 5500 et 5700 francs congolais. Toussaint Toumba, Kadhafi à la place de la poste, donne selon lui les causes de cette hausse.
Bon, nous payons localement. Du fait que là où nous payons aussi, c'est haussé. C'est à ce moment-là, nous vendons aussi à 5500.
Contacter les importateurs des produits pétroliers justifie cette hausse par l'impraticabilité des routes pendant la saison des pluies. Explication de Judith Kongolo.
Nous achetons là à Mwanda, ou bien à Kinshasa, ou bien à Dilolo, ou bien à Lubumbashi. À Lubumbashi, maintenant, les problèmes de transport, c'est ce qui est un peu très difficile. Il y a hausse des prix des carburants à cause des routes. Les carburants entrent difficilement.
Signalons que d'autres produits, dont notamment les ciments, les vivres frais et certains produits manufacturés, ont aussi augmenté de prix sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Tanganyika, la cimenterie GLC promet de revoir à la baisse le prix du ciment gris et de contribuer au projet de développement des communautés locales. Annonce faite hier samedi à Kalemie par le directeur général de cette société chinoise à l'issue d'une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Une nouvelle qui enthousiasme la population qui s'est plaignée du prix élevé du ciment produit localement. Paul Emunanga.
La société Great Lake Cement Company, GLC, basée dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie, dans la province du Tanganyika, produit et commercialise du ciment. Cependant, le prix d'un sac n'est pas le même suivant les milieux. À Kalemie, dans le Tanganyika, un sac de ciment se négocie à 11 dollars américains pendant que les mêmes produits se vendent à 8 dollars à Bukavu dans le sud Kivu. Au cours d'un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le directeur général de GLC promet de revoir à la baisse le prix du ciment dans le Tanganyika. Confirmation avec le président de l'Assemblée provinciale, Cyril Kimpu.
Nous avons parlé de la structure de prix du ciment gris. Comme vous le savez, la population est en train d'en pâtir. Le prix du ciment est élevé à Kalemie par rapport aux provinces voisines et même par rapport aux pays voisins. Ce qui n'est pas normal, d'autant plus que ce ciment est produit localement ici. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui fait que le ciment coûte cher par rapport ailleurs. Aujourd'hui, nous annonçons la bonne nouvelle que le ciment sera réduit à la baisse.
En outre, GLC promet de respecter le cahier des charges élaboré avec la communauté locale pour exécuter certains projets de développement à Kabimba, lieu où la société est implantée. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans les territoires de Beni, au nord Kivu, le pont Ouloulou, jeté sur la rivière portant le même nom, montre quelques signes d'usure. Il est sur la route nationale numéro 4, axe Beni-Kassindi. C'est la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori qui alerte sur ces dangers. Pour Mele Kimulala, président de cette structure citoyenne, si ces ponts s'effondraient, cela aurait des répercussions non seulement sur la sécurité des usagers, mais aussi entraînerait des conséquences économiques, car c'est la principale porte d'entrée des produits commerciaux des pays d'Afrique de l'Est vers la région de Beni, Butembo et bien au-delà. Mele Kimulala appelle le gouvernement congolais à intervenir avant que le pire n'arrive. Il est joint par Guylaine Kassassia.
Compte tenu de l'importance de cette route nationale, nous interpellons la conscience des autorités nationales sur les temps de délabrement du pont Ouloulou qui est jeté sur la rivière Ouloulou, axe Beni-Kassindi, sur la route nationale numéro 4. C'est une route qui nous aide dans la partie où les opérations conjointes FARDC et UPDF se passent. Nous demandons à ce que les autorités puissent penser directement à la réhabilitation de ces ponts qui présentent des dangers dans les jours à venir. D'ailleurs, nous craignons que les pires arrivent même avant 10 jours par rapport à ce que nous avons constaté depuis une semaine. Malheureusement, c'est un pont construit par des plages, soutenu par des gabions, sur une route d'intérêt national. C'est une route qui était réhabilitée par l'entreprise d'hôte, mais on ne sait pas pourquoi les activités ne sont pas terminées, parce que c'est depuis au moins 2 ans et demi que les travaux ont été lancés par le président de la République, encore à Kassindi. On nous avait donné un délai maximum de 2 ans. Nous interpellons aussi la conscience de nos représentants au niveau national, au niveau provincial, de voir comment mettre pression aux autorités.
Plus de peur que de mal. Le naufrage annoncé jeudi dernier du MB Mamawechi au village Lolo, situé à 300 km de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, n'a pas eu lieu. Confirmation faite ce dimanche à Radio Okapi par le commissaire fluvial de Mbandaka. Kompeta Mbuyo affirme qu'après enquête, le seul décès enregistré sur la baleinière a pour cause le toit de l'embarcation qui avait cédé et blessé mortellement un membre de l'équipage. Il ajoute que tous les passagers sont vivants et leurs marchandises bien conservées. On écoute les explications de Kompeta Mbuyo, joint par Alain Rungmouchinge.
Après les enquêtes et les investigations, on n'a pas connu un cas de naufrage parce que si on parle de naufrage, on voit que l'unité était chavirée et tout. Mais l'unité n'a pas chaviré. Seulement, il y a une surcharge au niveau des toitures et la toiture a cédé. Tout ce qui était en haut, et les bagages sont tombés sous l'eau et il n'y avait personne qui avait connu la mort en noyade. Seulement, un membre d'équipage qui avait connu une blessure au niveau de la tête et cette blessure c'était le clou de la baleine qui l'avait piqué et il avait connu la mort. On l'a transporté, même l'athée de Bolomba était venu là-bas. Et tout le monde avait les services des marins. Ils ont fait là-bas toute la journée, parce que l'accident est lié le jeudi 19. Ils ont fait toute la journée là-bas le vendredi. S'ils pourraient avoir les cadavres, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, les bagages sont là, toutes les marchandises qu'on avait transportées au niveau des coques. À l'intérieur, on a trouvé les marchandises.
18h13 dans ces studios de Radio Okapi en direct de Kinshasa. Ce journal se poursuit avec 7 autres nouvelles. Les autorités politico-administratives du Kwilu, dont les chefs des différentes divisions, sont sensibilisés sur la prévention et la lutte contre les exploitations et abus sexuels. C'était lors d'une session de plaidoyer et de sensibilisation organisée vendredi par l'ONG Kanaku, communauté des amis de la nature et de la culture, avec l'appui financier de l'UNFPA. À l'occasion, le coordonnateur de cette structure humanitaire, Damien Bungu, a fait savoir que des cas d'exploitation et abus sexuels existent au Kwilu, mais restent confidentiels. Il en appelle à l'implication de ses autorités pour y mettre fin. Ces assises ont eu lieu à la division provinciale de la santé du Kwilu à Bandundouville. Damien Bungu, responsable des Kanaku, est au micro de Irène Mboma.
Nous sommes en train de mener une session de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives dans les différents services. Ce fait, une journée de plaidoyer pour que les responsables des différents services comprennent que dans leurs services, ils doivent avoir des points focaux, ils doivent jouer un rôle très important sur la lutte contre les exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel. Voilà pourquoi nous sommes là, pour les sensibiliser. Et après cette journée de plaidoyer, nous aurons à signer avec les codes de bonne conduite. Au-delà de ces plaidoyers, nous aurons à mettre sur place les mécanismes de gestion des plaintes. Mais nous aurons aussi à mener des sensibilisations dans la communauté pour que les gens comprennent et soient informés sur les exploitations et abus sexuels. Ce sont des cas qui sont confidentiels, mais nous sommes informés. Nous avons les déplacés de Kwamuntu qui sont ici chez nous, qui quémandent par-ci, par-là. Qui sait si parmi nous qui sommes acteurs humanitaires, avons déjà pris en mariage ces jeunes enfants-là? Donc, l'aide humanitaire est gratuite. Tout ce qui se donne n'est pas en échange de sexe.
Actualité internationale.
Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a démenti ce samedi dans un communiqué les accusations portées par le Niger qu'il accusait de vouloir les déstabiliser. Le pays avait accusé le Nigeria de servir des bases arrières à la déstabilisation du Niger en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Après la convocation d'une représentante de l'ambassade du Nigeria à Niamey, le Nigeria a fini par rejeter ces accusations dans un communiqué.
L'invité.
C'est Amos Kalegamire Bazamuka, conseiller juridique et administratif du gouverneur de la province du Sud Kivu. Il s'exprime après sa participation aux cérémonies des remises officielles par la MONUSCO au palais des justices à Bukavu, du bâtiment qui comprend 3 cachots, 4 toilettes et un dépôt d'objets saisis pour les détenus. Amos Kalegamire s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous venez de représenter les gouverneurs de province à la cérémonie de remise du bâtiment qui va abriter la MIGO au parquet général de Bukavu. Est-ce que cet acte, c'était vraiment une nécessité pour l'instant?
Cet acte était une nécessité pour l'instant parce qu'il n'y avait pas de conditions optimales pour l'incarcération de nos compatriotes qui sont en situation carcérale. Et donc, nous recevons à bras ouverts ces bâtiments parce que dorénavant, nos compatriotes en situation carcérale seront dans des conditions optimales.
Quels sont les besoins fondamentaux auxquels ça vient répondre exactement?
Ça vient répondre aux besoins, en tout cas, d'abord humanitaires. Ça vient aussi répondre aux besoins sanitaires de nos amis qui sont en détention, qui est un lien de transit, bien sûr. Et ça vient répondre aussi aux conditions humaines.
De votre propre analyse, vous constatez que la capacité va désengorger cet amigo?
Effectivement, les détenus qui seront en garde à vue, en tout cas, seront aujourd'hui bien traités, mais aussi la capacité de ces bâtiments que nous venons de réceptionner à ce jour, c'est vraiment une capacité au moins de 60 personnes. Parce que nous avons 3 chambres, 3 salles. Et chaque salle, en tout cas, peut contenir 20 personnes au minimum.
À part le parquet de Bukavu, est-ce que dans le territoire, le même besoin se fait sentir?
Effectivement, sur une lancée du président de la République, le président de la République voulait faire de la reconstruction des conditions carcérales son cheval de bataille. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulions que ça puisse s'étendre de partout où il y a nécessité.
Par exemple?
Par exemple, si, n'est-ce pas, à Kabare, à Kavumu, à Walungu, à Shabunda, à Kamituga et j'en passe.
On l'a toujours répété, la MONUSCO s'est désengagée de la province, mais les agences du système des Nations Unies sont toujours là. Qu'est-ce que vous attendez, vous espérez de ces agences qui pourraient provenir de la MONUSCO au cas où elles continuaient toujours à exister ici au Sud Kivu?
Effectivement, dans les plans d'engagement, il a été consenti, il a été convenu que les actions qui étaient menées par la MONUSCO puissent désormais être mené par le PNID. Et à travers le PNID, nous pensons que les bonnes coopérations avec les Nations Unies peuvent continuer à se matérialiser dans ces secteurs.
Merci beaucoup.
Notre invité était avec Jean Kassami. Chères auditrices et auditeurs des Radio Okapi, ce journal touche à sa fin. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou et supervisé par Alain Rung Mouchins. Grâce à Mzati Massanzi, je voulais présenter. Merci pour votre attention.